Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission « De l'art dans les oreilles ». C'est Julie Chaise-Martin au micro et en plein cœur de l'été, pour cette semaine, je vous emmène voir une exposition dans le nord de la France. Au musée de l'hôtel Sandelin de Saint-Omer est en effet présentée jusqu'au 31 août une exposition qui fera vibrer les âmes les plus romantiques. Amoureux du théâtre, de la littérature et de la peinture, vous ne pourrez qu'aimer cette exposition qui a le mérite de faire dialoguer les arts, de révéler les liens tissés au fil des siècles entre théâtre, mise en scène et peinture. Cette exposition pourra paraître un peu trop loin géographiquement pour les uns, un peu trop intellectuelle pour les autres, mais en suivant les pas des deux commissaires, Dominique de Fonréau, directrice du musée Eugène Delacroix de Paris, et Marie-Lise Marguerite, directrice du musée des Beaux-Arts d'Arras, vous allez voir que le charme opère. La ville de Saint-Omer, à travers cette exposition intitulée « Shakespeare romantique », a voulu montrer comment l'œuvre du dramaturge anglais a profondément inspiré et marqué les artistes romantiques du XIXe siècle, et comment le revival shakespearien a été un phénomène majeur dans l'Europe et la France de la première moitié du XIXe siècle. À l'instar de Dante, de l'Arioste ou du Tasse, Shakespeare devient une source d'inspiration intarissable pour les peintres, en premier lieu desquels Eugène Delacroix, qui va jusqu'à s'identifier au personnage d'Hamlet. L'œuvre de Shakespeare est aussi à l'origine du renouvellement du théâtre et de la dramaturgie en littérature. Écrivain et metteur en scène osent tout, ils peuvent à la fois s'affranchir de l'unité de temps et de l'unité de lieu, et l'on voit tout d'un coup apparaître sur scène des tableaux violents de mise à mort. Mais pourquoi Shakespeare à Saint-Omer ? Tout a commencé avec la redécouverte en 2014 d'un rare exemplaire du First Folio des pièces de Shakespeare au sein même de la bibliothèque du pays de Saint-Omer, une redécouverte extraordinaire qui a suscité un vif intérêt de la part des plus grands spécialistes de l'écrivain au niveau international et qui a permis à la petite ville de Saint-Omer de se pencher sur ces liens très étroits qu'elle entretient depuis très longtemps avec le monde anglo-américain. Comme l'explique Rémi Cordonnier, responsable des fonds anciens à la bibliothèque d'agglomération du pays de Saint-Omer.
L'histoire de la découverte, elle remonte, faut vraiment remonter assez loin, finalement, une dizaine d'années, avec la redécouverte de la présence sur le territoire au XVIIIe siècle de trois personnages qui sont considérés comme des pères fondateurs des États-Unis, donc les Carroll, deux frères et un de leurs cousins, qui ont joué un rôle important dans l'histoire américaine et notamment dans l'indépendance américaine. Et à partir de là, le territoire a commencé à se réintéresser un petit peu aux liens qui existaient entre l'Audomarois et le monde, on va dire, anglo-américain, pour voir large. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de liens. L'un des plus connus, c'était Thomas Becket, qui était passé par chez nous, mais il y avait plein d'autres choses, notamment qui fait toujours bien plaisir, c'est de savoir que c'est un ancien sous-prieur de Saint-Bertin qui est quasiment à l'origine de l'université d'Oxford, puisqu'il était le premier chancelier de l'école d'Oxford avant qu'elle ne devienne université. Donc c'est déjà rien que ça, c'est prestigieux. Et puis par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait des liens. L'abbaye de Saint-Bertin possédait des terres dans le Kent, etc. Donc il y avait déjà à cette époque-là une présence forte, des échanges de population importants. Beaucoup de nos manuscrits médiévaux ont été copiés par des copistes d'origine anglaise, on le voit à l'écriture notamment, etc. Ça s'est poursuivi à l'époque moderne. Et notamment, l'un des moments phares de ce lien, outre des échanges commerciaux importants, c'est la fondation, donc au XVIe siècle, à la fin du XVIe siècle, d'un collège de jésuites anglais sur Saint-Omer même. On en voit encore la façade au niveau du lycée Ribaud. Donc ce collège a reçu l'appui de plusieurs puissants, des monarques de l'époque, a été financé énormément, a rapidement pris en importance dans la ville par ses interactions, notamment économiques aussi, et avec une population d'élèves assez rapidement importante, autour d'une centaine d'étudiants, d'élèves, je crois, au début du XVIIIe siècle. Donc on conserve actuellement à la bibliothèque de Saint-Omer le reliquat quand même encore conséquent. Là actuellement on est en train d'essayer de reconstituer progressivement la bibliothèque en question grâce au travail d'identification des marques de provenance dans les volumes conservés, et on est à plus de 300 volumes. Étant donné l'origine globale de nos fonds, en tout cas pour les fonds les plus anciens, qui sont des fonds essentiellement religieux et voire monastiques, on ne peut pas dire que les moines, notamment de Saint-Bertin et de Carmaret, étaient particulièrement friands de théâtre élisabétain et encore moins de Shakespeare. Donc, bon. Et même dans un collège de jésuites, Shakespeare a quand même une réputation relativement sulfureuse au niveau de son contenu textuel. On ne s'attendait pas forcément à trouver ce genre de théâtre dans un collège qui formait des jeunes gens de bonne famille. Et donc, la surprise est plutôt bonne. Et finalement, on tombe sur cette description très laconique. Recueil complet des œuvres de Shakespeare. Enfin, le théâtre complet de Shakespeare en anglais, 18e siècle. Et assez rapidement, la mention du First Folio est arrivée. En tout cas, des folios, on va dire, des folies de Shakespeare, puisqu'il y en a quand même eu 4 au XVIIe siècle.
C'est probablement en 1736 que le First Folio shakespearien arrive à Saint-Omer, offert par un dénommé Neuville au collège des jésuites anglais au Domarois.
Par la suite, là je fais un bond dans le temps, on est allé à Londres pour le présenter à l'Institut français et au Globe, et lors de la semaine londonienne, il s'avère que l'Institut français est placé juste à côté. Alors je ne sais plus si c'est Sotheby's ou Christie's, mais en tout cas, comme ils en avaient vendu un dans leur histoire, ils avaient envie d'en voir un second, et ça a été l'occasion de leur poser la question. Donc ils m'ont dit à cette époque-là que, étant donné l'état, la charge historique, le contenu, etc. du volume, si eux avaient eu à le mettre en vente, ils auraient lancé comme prix de départ 1,2 million de livres, sachant que c'est le prix de départ en salle des ventes. Après, on ne sait pas combien il aurait fait, et on ne saura jamais.
Au musée de Lacroix notamment, mais on en reparlera tout à l'heure, on conserve un assez grand nombre d'œuvres de Lacroix liées à Shakespeare.
Dominique de Fonréau, directrice du musée national Eugène Delacroix de Paris.
Donc, j'ai trouvé l'idée tout à fait séduisante, passionnante. Et j'en ai parlé très vite à mes collègues du Louvre qui ont aussi adhéré à l'idée. Donc, forte de tout ça, on s'est dit que c'était l'occasion de penser une exposition relativement importante dans son ambition, avec, vous le verrez, des prêts des collections françaises et des collections britanniques, hein, très exceptionnelles, avec des rassemblements d'œuvres qui n'ont jamais été faits, hein, comme par exemple, vous verrez, on a 3 fragments d'un tableau de Fuseli, du songe de la reine Catherine d'Aragon, qui sont rassemblés pour la première fois, ou les pierres lithographiques de Delacroix qui sont rassemblées aussi pour la première fois en dehors de là où nous les présentons au musée Delacroix. Donc il y a eu des choses quand même tout à fait extraordinaires, ou par exemple aussi pour Chassériau, pouvoir avoir à la fois des peintures, des dessins, des essences, hein, autour de ses œuvres. Donc ça permet cet élément-là. Et ça permet aussi de montrer l'universalisme de Shakespeare, c'est-à-dire combien Shakespeare, qui est un auteur élisabétain, ça on le sait bien, donc vit à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle, est considéré au XIXe siècle comme un auteur romantique, hein, c'est-à-dire cette appellation Shakespeare romantique, elle est aussi quelque chose du temps, c'est-à-dire que le romantisme s'approprie Shakespeare, Shakespeare qui leur semble être, enfin, les pièces de Shakespeare qui leur semblent être une possibilité de renouveau de leur art. C'est ce qu'écrit Stendhal, hein, dans son fameux Racine et Shakespeare que vous connaissez, cette idée que Shakespeare puisse renouveler l'art théâtral. Donc c'est vraiment ce qui se met en jeu. Donc ce rapport tout au long du 19e siècle, l'exposition est organisée de façon à peu près chronologique. Donc, première salle sur l'Angleterre, avec notamment la Boydell Gallery, qui est donc fondée par un collectionneur anglais qui veut rendre hommage à Shakespeare à la fin du 18e siècle, et les œuvres de Fuseli. Puis dans la salle qui est juste derrière nous, un ensemble d'œuvres autour de quelque chose qui est très anglais, qui sont les fairy paintings, hein, ces peintures qui sont inspirées par La Tempête et par Le Songe de Nuit d'été, des œuvres d'ailleurs qui ne sont pas jouées en France, hein, et qui ne sont pas jouées en France avant assez longtemps, hein, l'une et l'autre. Et puis ensuite, tout l'ensemble lié notamment à la France, où on commence par le début du 19e siècle, avec notamment à partir de 1827 la représentation de Shakespeare en anglais, qui influence beaucoup les artistes donc de cette époque-là, à la fois peintres, musiciens, graveurs, illustrateurs. Et donc, en 1827, sont joués pour la première fois en anglais Roméo et Juliette et Hamlet. Et tous les, que ce soit Hugo Delacroix, Berlioz qui rencontre sa future femme, qui jouait Harriet Tubman, qui joue à la fois Ophélie et Juliette, mais Dumas aussi assiste à cette représentation qui est une véritable occasion de renouveau de leurs arts. Et le théâtre romantique, le drame romantique, c'est ce que dit très bien Florence Nogrette dans le catalogue, est enfant du drame shakespearien.
La thématique de Shakespeare romantique et Shakespeare réappropriée par les artistes romantiques français, mais pour pouvoir traiter de ce sujet-là, on était obligé de passer par l'Angleterre.
Marie-Lise Marguerite, directrice du musée des Beaux-Arts d'Arras.
La réappropriation de Shakespeare par les artistes anglais eux-mêmes, elle date de la fin du XVIIIe siècle et elle se fait dans l'entourage notamment de David Garrick, qui est un acteur anglais fameux qu'on va pouvoir aller voir tout de suite, et de la Boyd Gallery, qui est une entreprise absolument folle se développe donc dans les années 1789 à Londres. Et donc je vous propose d'aller voir la première salle. Dans cette salle d'introduction, cette première salle de l'exposition Shakespeare romantique, on se concentre sur ce qui se passe en Angleterre entre les années 1780 et le début du 19e siècle. Ressort l'envie de publier tout Shakespeare illustré, ce qui est quand même extrêmement ambitieux, et de créer ces illustrations, de commander pour ces illustrations des tableaux aux plus grands artistes anglais et européens de l'époque. Donc il y a deux finalités à cette entreprise. D'une part, les recueils gravés, illustrés et diffusés. Et d'autre part, une galerie de tableaux. Les artistes pour la Boyd Gallery avaient le libre choix de la thématique, du texte et de la scène représentée. Et ils sont souvent, ces tableaux, assez symptomatiques des artistes eux-mêmes et des sentiments des artistes eux-mêmes. Ici, Angelica Kauffmann, elle représente les deux gentilshommes de Vérone au moment donc, de l'acmé du récit où les deux femmes travesties sont en train de se révéler aux hommes qui sont en train de la courtiser. C'est presque un tableau féminin avant l'heure qui est ici représenté. C'est le monde du théâtre qui se renouvelle aussi complètement dans ces années fin du XVIIIe siècle et début du XIXe siècle, avec des acteurs absolument innovants dans leur manière de jouer, dans leur manière de mettre en scène, puisque ce sont les acteurs qui mettent en scène et qui se dirigent, j'allais dire, eux-mêmes. Parmi les grands acteurs anglais de cette période, David Garrick, qui devient vraiment la superstar de l'époque en Angleterre et dans le monde entier, qui tourne sur les scènes et sur les théâtres dans l'Europe entière. David Garrick, il est représenté en peinture par nombreux peintres, portraiturés, et aussi son image est diffusée par la gravure. Donc on l'a ici représenté en Richard III qui s'éveille et qui réclame son cheval. Ce qui était très étonnant par rapport aux autres acteurs européens de l'époque, c'est le jeu des acteurs anglais et leur implication notamment pour la représentation, l'expression des sentiments de manière tout à fait nouvelle. C'est ce qui va vraiment impressionner les artistes romantiques en 1827 quand les acteurs anglais viennent jouer à Paris. C'est ce qui va impressionner absolument toute la critique aussi de l'époque. Ça va donc révolutionner le théâtre français et la peinture française. Donc c'est ce qu'on verra dans un deuxième temps. Le théâtre de Shakespeare, les textes de Shakespeare sont vraiment étudiés, retraduits dans l'Europe entière à ce moment-là, mis en image, et les personnages de Shakespeare deviennent des icônes presque pour la culture anglaise.
Dominique de Fonréau, directrice du musée national Eugène Delacroix de Paris.
Il y a un aller-retour permanent entre peinture et théâtre, c'est-à-dire en fait d'une certaine manière, le théâtre se nourrit de la peinture et vice-versa. Et c'est vrai que par exemple le jeu de Garrick de Shakespeare a beaucoup influencé à la fois le paradoxe sur le comédien de Diderot, mais a aussi inspiré des jeux théâtraux du 19e siècle et à rebours aussi la peinture. Donc il y a un jeu d'expression réciproque entre peinture et théâtre dont Shakespeare est l'occasion d'une certaine manière, et qui rend sens à cette expression Shakespeare romantique, parce que du coup il y a une appropriation qui est aussi une appropriation du moment d'un auteur qui bien sûr à ce moment-là est disparu depuis déjà plus de 200 ans, mais
Et l'engouement, en fait, pour Shakespeare en France, il arrive quand précisément ?
1827, c'est vraiment la date clé. Avant 1822-1827, les textes de Shakespeare sont connus en France par des traductions, des adaptations, qui souvent sont édulcorées ou qui, en tout cas, essayent de faire rentrer le texte vibrant et vivant de Shakespeare et très complexe dans un cadre normé d'unité de temps, d'unité de lieu qui est propre à la culture française. Et assez souvent, c'est raté. Enfin, en tout cas, on perd vraiment l'esprit de Shakespeare. Et il faut l'arrivée du texte dans la langue de Shakespeare, du texte anglais, du texte joué dans sa langue aussi en 1827 par les troupes londoniennes, du théâtre anglais au théâtre de l'Odéon, pour que les artistes commencent à s'émerveiller d'abord de ce type de représentation de l'expressivité des acteurs, et puis s'émerveillent aussi du texte, de la beauté de la langue, de sa complexité, et l'utilisent comme nouvelle base, comme source de renouveau pour leur pensée, pour leur littérature, pour leur musique et pour leur peinture. Et c'est ce qu'on a voulu présenter à partir de cette section dans l'exposition.
En 1827, il y a deux pièces essentiellement qui sont jouées, qui sont les deux grandes pièces de réception de Shakespeare en France, deux des grandes, qui sont Hamlet et Roméo et Juliette. Une liberté par rapport à des codes du théâtre et qu'il s'approprie d'une certaine manière avec ce rapport au caractère shakespearien, cette ambiguïté entre folie et raison qu'on évoquait tout à l'heure rapidement autour de Lady Macbeth. Et donc il y a quelque chose là en jeu qui les passionne et qui donne en partie naissance au drame romantique, comme on l'évoquait tout à l'heure aussi.
C'est-à-dire qu'en France, c'est un théâtre qui était complètement nouveau. Finalement.
C'est un théâtre qui est complètement nouveau parce que c'est un théâtre qui, enfin, on se souvient de la préface de Cromwell, de Victor Hugo, qui date de 1827 aussi. C'est vraiment un théâtre complètement nouveau qui rompt avec les trois grandes unités que Marie-Lise évoquait, qui rompt aussi avec une sorte de déclamation parce que Shakespeare était joué avant et notamment un artiste que Delacroix connaissait bien, qui était Talma, avait joué Hamlet avant ces moments-là, mais de façon très déclamatoire avec quelque chose de l'ordre de la tragédie. Française, et c'est vrai que Stendhal, mais d'autres commentateurs, appellent un renouveau par rapport à cela, et un renouveau qui est encore plus exigé par l'apparition finalement au début des années 1830 du paradoxe sur le comédien de Diderot, qui paraît de façon posthume, et qui a aussi nourri cette transformation du théâtre avec l'apparition progressive du rôle de la mise en scène, pas encore de la création du metteur en scène, mais la mise en scène, puisque avant il n'y a pas de metteur en scène à proprement parler, et ce qui est intéressant, c'est que la peinture a joué aussi un rôle de mise en scène d'une certaine manière, et vice-versa, en fait. C'est ça qui est intéressant dans ce dialogue entre les deux arts.
Peintre, mais aussi mélomane et passionné de théâtre, Eugène Delacroix s'intéresse à tout ce qui touche les profondeurs de l'âme humaine. Il ne pouvait donc que poser un regard attentif sur le théâtre shakespearien et décrira le dramaturge anglais comme étant, je cite, « un sauvage contemplateur de l'âme humaine ». Dès lors, les œuvres et les personnages de Shakespeare vont hanter les créations picturales d'un Delacroix qui sera par là un modèle pour une génération d'artistes qu'il admire, notamment Gustave Doré et Théodore Chassériau. Dans l'exposition, on découvre ce Delacroix shakespearien extrêmement séduisant qui s'adonne avec génie à une toute nouvelle technique artistique à l'époque, la lithographie, pour mettre en scène les personnages de l'auteur anglais. Sa série lithographique shakespearienne, même si elle n'a pas eu le succès escompté à l'époque de sa création au grand dam de l'artiste, aujourd'hui elle nous séduit et est un des plus beaux morceaux de l'exposition Shakespeare romantique à Saint-Omer. Dominique de Fonréau, directrice du musée Eugène Delacroix.
Et le personnage d'Hamlet est une sorte de double pour Delacroix, de façon tout à fait certaine, parce qu'il est comme lui orphelin, et Delacroix, à ce moment-là, vient de perdre sa mère après avoir déjà perdu son père, et Hamlet, on le sait, a perdu son père dans des conditions tragiques, donc je pense qu'il y a cette émotion-là très forte. Et puis aussi parce que alors Hamlet, plus qu'encore aucun autre personnage de Shakespeare, et balance toujours entre raison et folie, c'est-à-dire est-ce qu'il n'invente pas toute cette histoire? Est-ce qu'on ne peut même pas imaginer que son père n'a même pas été assassiné et que c'est simplement lui qui projette quelque chose sur le couple que forme sa mère avec son oncle, et donc le nouveau mari de sa mère? Ou est-ce qu'au contraire, il est le plus raisonnable et que tout le monde est dans la folie et que du coup, il essaye comme il peut de défendre la raison. Et ça intéresse beaucoup Delacroix, qui, on va le voir dans la pièce suivante, a dédié à Hamlet une suite lithographique très remarquable qui vraiment permet de reprendre tous les instants importants de la pièce de Shakespeare et qui montre que Delacroix s'intéressait à Shakespeare de façon à la fois très intériorisée et en même temps en ayant une très bonne connaissance du théâtre de son temps. C'est très intéressant le rapport Shakespeare chez Delacroix, parce que c'est certainement celui qui l'intériorise le plus, mais la mort d'Ophélie que Delacroix représente, on l'a ici en pierre lithographique, en estampe et en peinture, la mort d'Ophélie n'existe pas dans la pièce de Shakespeare, puisque c'est la reine qui raconte à Laërte, le frère d'Ophélie, la mort de sa sœur. Et donc la scène n'apparaît pas, Ophélie, on la voit pas sur le théâtre shakespearien, ce qui est vraiment d'ailleurs une des particularités du drame shakespearien, de parler d'une scène qu'on ne voit pas. Et donc c'est Delacroix qui lui donne réalité, d'une certaine manière, de représentation, et ça devient une icône, on le verra plus loin dans un motif qui a été repris, j'allais dire jusqu'à maintenant, enfin, même pas jusqu'à la fin du 19e, on ne devrait même pas s'arrêter, qui à mon avis est un motif toujours présent en peinture, en photographie, en gravure, et même si on regarde de façon attentivement, en photographie de mode. Hein, c'est un motif, ça m'a amusé une fois d'aller regarder un peu, c'est un motif qui est facilement repris, y compris maintenant. Il représente deux fois au moins Roméo et Juliette. Grosso modo, les pièces qu'il représente, c'est donc Hamlet, je viens d'en parler, Roméo et Juliette. Il représente Cléopâtre aussi, avec une très belle œuvre, mais qui est conservée dans un musée américain, et donc qui n'est pour l'instant jamais venu en France, à ma connaissance pour l'instant. Et il représente aussi Macbeth, j'en ai parlé tout à l'heure, et Othello. Donc vraiment, il a un choix dans les pièces, mais qui sont les pièces qui sont jouées de son temps. Hein. Pour ce Roméo et Juliette, qui avait enthousiasmé Théophile Gautier quand il l'a vu à l'exposition universelle de 55, Hamlet, Delacroix a un choix, c'est fortuit, c'est intéressant comme lapsus, mais Delacroix a vraiment aussi le choix de l'instant le plus sombre de la pièce, c'est-à-dire le moment où Roméo découvre Juliette endormie, il croit qu'elle est morte, donc il la prend dans son linceul déjà, et la croyant morte, il se suicide, et quand elle se réveille, elle voit Roméo mort et se suicide à son tour. Donc il représente ça dans un univers au tombeau des Capulet. Donc il y a vraiment aussi là la mort, hein, c'est la jeunesse qui a rendez-vous avec la mort, puisque je vous rappelle qu'ils ont 15 ans, donc ce sont des tout jeunes gens. Donc la jeunesse qui a rendez-vous avec la mort.
Marie-Lise Marguerite, directrice du musée des Beaux-Arts d'Arras.
Alors, les thèmes et les pièces de Shakespeare vont se développer, vraiment vont devenir très récurrentes dans le théâtre français. Les scènes de Shakespeare vont être utilisées comme des motifs de peinture, deviennent des motifs de peinture. Avec Gustave Doré, avec Merson, on a vraiment les tentatives d'illustration de textes de Shakespeare et d'un texte en particulier qui est Macbeth. Donc, pour tout ce qu'il développe, à la fois, c'est presque un concentré de Shakespeare, il y a les personnages complètement irréels, les sorcières qui viennent rythmer le récit. On a la vilainie des personnages, Macbeth et sa femme. La folie est présente, les fantômes sont là aussi. Donc on retrouve vraiment tous les ingrédients et tous les ressorts des textes shakespeariens. Et plusieurs artistes vont essayer de se confronter à ce moment-là à l'illustration de ce texte. Donc Merson a vraiment fait tout un travail d'illustration. Le musée d'Orsay et le musée du Louvre conservent tous les dessins préparatoires, les reprises, donc on a parfois plusieurs versions pour une même scène du texte. Et puis un autre artiste s'est essayé, ou a tenté en tout cas, ou a émis le désir d'illustrer Macbeth, c'est Doré, pour lequel on ne conserve aujourd'hui que deux dessins de la vie rehaussée de gouache qui sont présentés ici, qui sont conservés au musée des Beaux-Arts, au musée pardon, d'art moderne de Strasbourg, et où on voit là tout le génie de Doré qui et tout son style. Il n'est pas question pour Doré de décrire les scènes, il les met vraiment en œuvre, il les met vraiment en scène. Là aussi, le décor qui n'est qu'esquissé, mais la monumentalité des espaces, la profondeur, la noirceur des espaces sont des motifs et des ressorts de son dessin. Et puis l'expressivité des personnages est extrêmement forte. On est vraiment plongé dans un monde extrêmement sombre, extrêmement ténébreux, qui plaît beaucoup à Doré, qui avait par ailleurs lui aussi un goût pour l'Angleterre et pour les textes anglais extrêmement importants. Dont on sait qu'il n'a pas réussi à illustrer Shakespeare, mais dont on perçoit à travers la présentation de ces deux exemples qu'il l'a tenté, en tout cas il a eu ce désir.
Hamlet, Othello, Desdémone, Macbeth, Ophélie, Ariel, Lady Macbeth, Puck, Roméo et Juliette. vous pouvez retrouver tous ces personnages shakespeariens mis en image par les plus grands artistes romantiques du 19e siècle dans l'exposition Shakespeare romantique, Fuseli de la Croix Chassériau, présentée jusqu'au 31 août au musée de l'hôtel Sandelin de Saint-Omer, qui croise avec bonheur inspiration théâtrale et picturale. Un été romantique, ça se joue donc au cœur du pays audomarois, avec des prêts exceptionnels du musée Eugène Delacroix et du musée du Louvre. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission. De l'art dans les oreilles était donc au musée Sandelin de Saint-Omer et j'ai suivi les pas de Dominique de Fonréau, directrice du musée Eugène Delacroix, et de Marie-Lise Marguerite, directrice du musée des Beaux-Arts d'Arras. Qu'elles en soient remerciées. Toutes les deux, je vous souhaite un très bel été sur Art District, à l'écoute de nos programmes.